Nous en sommes à la dernière communication. Alors là, nous avons John Bell de Cambridge, professeur John Bell, qui va nous parler, de nouveau dans une perspective comparative, du droit administratif, construction du droit administratif en France et en Angleterre. Je rappelle que John Bell a depuis très longtemps fait une œuvre comparative, au-delà d'ailleurs seulement de l'Angleterre et de la France, notamment dans le cadre du pouvoir judiciaire, qui est très 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 importante. Et je le remercie d'autant plus, comme d'ailleurs Luigi Lacquet, aussi de faire cette communication en français.
Donc je remercie Alain de l'invitation. Il a bien fait de rappeler le brouillard du Royaume-Uni ce matin, et je me souviens du titre du journal anglais qui disait « Brouillard sur la Manche, le continent isolé ». C'est notre perspective peut-être. Je prends l'exemple du droit administratif en France, en Angleterre, parce que c'est un droit prétorien, et si on prend l'année 1800, c'est un sujet sans code, sans formation de juriste, et même sans sujet dans les titres des livres. En l'absence d'un code, comment le droit administratif est-il identifié? Comment il obtient sa structure? Pour moi, c'est clair que c'est l'œuvre de la doctrine. L'existence de cette doctrine dépend de deux facteurs. L'existence d'une pratique professionnelle, surtout juridictionnel, et l'enseignement. Gestas et Jamin proposent que l'existence de la doctrine dépend de la qualité des écrits, d'une collégialité parmi les auteurs et d'une certaine méfiance des juristes par rapport à d'autres disciplines. Pour moi, l'essentiel est le rapport entre la réflexion critique et la pratique, ainsi que l'enseignement avec les grands publics non académiques. La doctrine a trois objectifs. Premièrement, la divulgation. C'est l'accessibilité. Surtout dans un système sans code, l'accessibilité des règles de droit et des principes. C'est le sommaire des différentes lois qui gouvernent les activités de l'administration. Le caractère diffus de ces règles rend nécessaire une deuxième activité, c'est la systématisation. Le système des règles et de la jurisprudence n'est pas du tout évident. Et en fin de compte, c'est nécessaire d'avoir une réflexion critique pour réformer et aussi pour améliorer les lois et également la jurisprudence. Le droit administratif n'apparaît pas d'un seul coup, mais apparaît petit à petit, et surtout, je crois que ça apparaît à travers la réflexion doctrinale autour des activités des juridictions, parce que les juridictions, la possibilité d'avoir des litiges, donne l'importance pour les professionnels en droit. Et l'enseignement, parce que c'est l'enseignement d'un marché au livre et aussi rend nécessaire la systématisation. Donc, je vais présenter ces deux activités, l'activité professionnelle et ensuite l'enseignement. Je prendrai la France et l'Angleterre pour, et je dis bien l'Angleterre, c'est pas les droits britanniques, pour montrer un peu les systèmes de différence. L'activité professionnelle est constituée par les conseils juridiques et par les décisions de justice. Les deux créent des besoins des ouvrages de la doctrine, mais je me limite à deux questions. Premièrement, l'importance quantitative de l'activité juridictionnelle et deuxièmement, la cohérence du sujet. Prenons l'importance quantitative. À vrai dire, dans l'Angleterre, c'est vraiment après 1945 et surtout depuis 1957 qu'il y a une activité professionnelle importante autour du droit administratif. Cela résulte de deux raisons. L'absence d'une activité cohérente des juridictions et l'absence d'une conception cohérente de l'administration. En Angleterre, comme Alain m'a bien dit, il y avait au XIXe siècle et même avant plusieurs writs, c'est-à-dire voies d'action en justice. En effet, il y avait plusieurs ordonnances de la High Court pour contrôler les instances inférieures, chacun avec ses propres règles. Donc, on avait certiorari, notre prononciation du latin, pour casser les décisions des juridictions inférieures, mandamus pour commander l'exécution d'un devoir par une administration, et prohibition pour interdire l'action d'une administration. Et finalement, habeas corpus pour libérer ou justifier la détention d'un individu. Mais chaque de ces ordonnances avait ses propres règles et la technicité de chaque ordonnance donnait lieu à une littérature spécifique. Il y avait des ouvrages sur certiorari ou bien sur prerogative writs, mais il n'y avait pas de cohérence et les juristes, surtout les avocats, se plaignaient de l'incohérence des décisions de justice dans les différentes matières de prerogative writs. En plus, il y avait beaucoup de décisions des tribunals, les commissions, qui étaient fondées sur des règles tout à fait différentes. Donc, il n'y avait pas de cohérence. En ce qui concerne la notion de l'administration, l'Angleterre n'avait ni la notion de l'État, ni la notion de l'administration. On avait les ouvrages sur la couronne, mais les autres institutions faisaient partie des sujets de la couronne, y compris les collectivités locales, etc. Les personnes morales et physiques que nous reconnaissons aujourd'hui comme partie de l'administration ne se distinguait pas tellement des autres sujets du roi. La collectivité locale, l'université et la société commerciale étaient des chartered corporations, personnes morales créées par l'acte de la reine ou du roi, et les règles concernant l'obligation de respecter la légalité presque les mêmes, même aujourd'hui. En matière de l'égalité de l'administration, l'arrêt fondamental qu'on cite concerne une société de chemin de fer. Le caractère indistinct de la notion de l'administration est le résultat également du fait que les justices of the peace exerçaient non seulement des fonctions administratives, mais également des fonctions pénales, de justice pénale. Aujourd'hui, justices of the peace jugent 95% des affaires au pénal. Mais il avait également compétence en matière de débit de boissons, l'organisation des personnes pauvres, etc., surtout dans la campagne. Comme d'ailleurs aux Pays-Bas ou en Suède, l'organisation de l'activité gouvernementale se faisait par des boards, c'est-à-dire les administrations ponctuelles, et la notion des ministères n'existe que comme résultat de la Première Guerre mondiale. Ce qui fait qu'il n'y avait pas de cohérence dans la notion d'administration et ni dans les règles qui concernaient cette administration. Et donc, on n'avait pas vraiment de cohérence dans l'activité professionnelle par rapport à l'administration ou au litige contre l'administration. De Smith écrivait en 1959 que le nombre d'affaires était très faible et que les recours de la High Court en matière de certiorari était essentiellement contre les Justices of the Peace en matière pénale, en matière de débit de boisson, ou contre les tribunaux. Donc, face à des affaires qui avaient un caractère hétérogène et qui n'avaient été suivies par des avocats de formation très généraliste, souvent formés dans une matière autre que le droit, le juge n'était pas dans la possibilité d'articuler des grands principes. Et donc, on n'avait pas de cohérence. La littérature professionnelle s'était plutôt écrite avant 1960 sur les activités administratives ponctuelles, local government law, hospital law, compulsory purchase, des choses comme ça, mais pas sur les grands principes. Et avant 1970, à peu près, il n'y avait pas de grand cabinet qui spécialisait en droit administratif. Si on compare la France avec une structure assez centralisée, avec les préfets, avec les ministères, avec les activités centralisées, par exemple l'enseignement national, les hôpitaux et plusieurs administrations de telle sorte, il y avait une grande différence entre les deux pays. C'était plutôt une commission, Franks, qui a donné son rapport en 1957 et qui a induit le législateur de donner un peu de cohérence dans le contrôle de l'administration. Mais c'est vraiment seulement en 2007, avec la loi de 2007, qu'on a eu une cohérence totale. La cohérence des principes généraux, c'est l'activité, surtout de la doctrine, entre 1960 et 1999. Si on compare la France, la création du Conseil d'État en 1799 a donné un nouvel élan au principe général du droit administratif. La révolution a gardé l'interdiction des juridictions ordinaires de troubler l'administration qui était imposée originellement par l'édit de changement en ley de 1641. Et les litiges concernant l'administration restaient distincts. Et ces litiges étaient assez nombreux. Sous la Restauration, il y avait déjà 400 affaires par an devant le Conseil d'État en matière de contrôle de l'administration. Sous le Second Empire, ce nombre a augmenté à 1000 affaires par an. Et vers 1890, ça, jusqu'à la Première Guerre mondiale, le nombre passait à 4000 par an. Donc, important. Et l'obligation de motiver les décisions était bien établie, ce qui faisait qu'on avait besoin de divulguer ces informations sur la jurisprudence et sur les lois qui appliquaient à l'administration. Macarel a encouragé la création du recueil des décisions du Conseil d'État en 1821, et il a publié déjà « Éléments de jurisprudence administrative, collection de résumés du contentieux » en 1818. Donc, on avait une activité juridictionnelle distincte qui menait à des ouvrages de doctrine. Et l'activité de l'administration, comme j'ai déjà dit, était importante parce que ça recouvrait un très grand nombre d'activités contrôlées par l'administration et par des ministères. Il y avait des ministères en France. On avait la défense nationale, les cultes et un très grand nombre d'administration, et parce que l'administration était active, on pouvait avoir des litiges de caractère administratif. On reconnaissait, si vous regardez les tables du Lebon, du recueil Lebon, vous voyez l'activité de l'administration était assez cohérente. Donc l'activité de divulgation était suivi par la systématisation d'un Emmanuel et même par les critiques dans les commentaires, tels que le revue Temis ou la revue Wolofsky depuis 1821. Donc on a un très décalage entre ce qui se faisait en France et ce qui se faisait en Angleterre. Et c'était à cause principalement du caractère cohérent de l'administration et de l'importance nombre et de quantité de la jurisprudence. Si on prend l'enseignement, il y en a deux questions à poser. Premièrement, est-ce que le droit administratif est une matière reconnue dans le programme universitaire? Et en second lieu, est-ce qu'il y en a des personnes capables de l'enseigner? 1809, ni l'un ni l'autre. Ni en Angleterre, ni en France. En France, l'enseignement universitaire du droit français devenait courant depuis l'ordonnance de Saint-Germain-en-Laye de 1689. En Angleterre, il devait attendre 1980 avant qu'il soit obligatoire pour le juriste d'être diplômé. Il ne peut pas diplômer en droit. Et même les réformes proposées en avril 2017 par les solliciteurs refusent l'idée que le juriste doit être formé en droit. Donc, sans l'obligation de formation en droit, l'activité des universités était assez faible en droit. Même si l'Oxford et Cambridge ont enseigné le droit canon, le droit romain, depuis au moins 1180, l'enseignement en droit anglais universitaire ne date que de 1850 à peu près. University College London a commencé son programme de diplôme en droit en 1829, mais le nombre de diplômés le long du 19e siècle n'était que 134. Ça veut dire à peu près 2 diplômés par an. Il n'y avait que 3 universités qui enseignaient le droit en 1870, c'est-à-dire Oxford, Cambridge et Londres. Et même en 1935, il n'y avait que 1879 étudiants en droit dans l'ensemble du pays. L'examen pour l'entrée au barreau, la formation professionnelle au barreau, n'a commencé que 1872 et le programme des universités suivit beaucoup les matières qui étaient nécessaires pour entrer dans le barreau, parce qu'on donnait des exemptions depuis 1895. L'université ne formait que faiblement des juristes jusqu'aux années 1960. C'est le moment où 50% des solliciteurs étaient formés dans les universités. Mais avant ça, ils n'étaient pas formés dans les universités. Ainsi, le marché pour les manuels, les traités, était assez faible. Et le nombre de cours était très peu, très faible. Par contre, à la France, il n'y avait pas de programme national. Chaque université pouvait choisir ses matières à enseigner. C'est toujours comme ça. Et c'était les professions qui exerçaient l'influence et les professionnels, les professions ne demandaient pas le droit administratif avant 1980. Il y avait donc très peu d'enseignement dans le droit administratif. Le droit administratif a des presque pas enseigné dans les universités avant 1950. On avait des programmes en droit international, droit romain, philosophie du droit depuis le 19e siècle, mais le droit administratif était, par exemple à Cambridge, était introduit en 1949 en programme de master et à option pour les étudiants de licence, de bachelor, en 1975. Donc, c'était en 1938 que les professeurs de London School of Economics et de Cambridge ont écrit une plaidoirie dans le journal des professeurs de droit pour plaider que la nécessité d'enseigner le droit administratif pour la formation des étudiants. Mais ce message a dû être répété par Harris Street, professeur de Manchester, en 1953. Et c'était très difficile de faire reconnaître. En partie, c'est l'influence de Dicey, qui a écrit son livre sur l'introduction au droit constitutionnel en 1885. Et lui a rejeté l'idée d'un droit administratif dans le sens français. Et cette approche a bien marqué les professions. C'était plutôt les professeurs de sciences politiques après la Première Guerre mondiale, surtout William Robson, qui a montré l'importance de l'administration et ensuite montré l'importance de la nécessité d'un droit administratif. Et le premier traité juridique publié était de Porte en 1929. Pour lui, le droit administratif est composé de toutes les règles juridiques énoncées explicitement par les lois ou de manière implicite dans la prérogative du roi, qui ont pour objet l'exécution du droit public. Mais, à vrai dire, les ouvrages de droit administratif ne datent que des années, au début des années 50, surtout avec l'ouvrage de Griffiths et Street de 1952, et les deux grands spécialistes de Smith en 1959 et de William Wade en 1961. Avant ça, ce n'était pas les professeurs qui écrivaient les bouquins, c'était des jeunes barristers qui voulaient gagner de l'argent et écrivaient des manuels assez ponctuels sur les sujets qui intéressaient les administrateurs surtout. Donc sur la santé, sur les hôpitaux, sur le gouvernement local, etc. Et le nombre d'enseignants était très faible. Même en 1950, il n'y avait que 200 enseignants dans l'ensemble du droit, dans l'ensemble de l'Angleterre et du Pays de Galles. Et la plupart d'entre eux n'avaient qu'une formation professionnelle. Le doctorat en droit était introduit en 1917, importation des États-Unis, mais avant 1959, il n'y avait que 62 Britanniques qui avaient des doctorats dans l'ensemble des matières. Donc, on a très peu cette notion de réflexion. La réflexion vient des années 1980. Et l'autre élément, quelle est l'influence, on en parlait tout à l'heure de l'influence extérieure, l'influence extérieure. Pour les gens qui écrivaient dans les années 1920, c'était la France. Mais, comme avec Dicey, c'était refusé. Et après la Deuxième Guerre mondiale, c'est vraiment les États-Unis, surtout l'importance de l'Administrative Law Procedure Act de 1946 et des traités de Gellhorn et Casebook de Davies de 1951 qui ont vraiment formé la notion d'un droit administratif. Par contre, la France a eu un programme national depuis la loi du vin Ventose en 1912, c'est-à-dire du même temps que le Code civil, de 1804, dont l'enseignement a commencé en 1808. Et le premier chaire ici à Paris est de 1819, Gérondeau. Et dans la Provence, les années 1830. Bon. Il y avait un programme national de droit administratif depuis 1857. Et les cours étaient publiés, bon, les polycopiés, etc. Mais c'est vraiment des textes. Bien sûr, pour la plupart, c'était des textes de divulgation. Les vraies systématisations commençaient plutôt vers les années 1860. Mais quand même, on avait vraiment le commencement de la doctrine française. Et c'était surtout avec la création du programme de doctorat en 1870, qui avait déjà une quarantaine d'étudiants, qui était important parce que un des premiers professeurs à enseigner dans ce programme, c'était Édouard de Laferrière, qui ensuite a publié son traité de droit administratif, qui est vu comme le fondement de la doctrine administrative. C'est-à-dire, avec les doctorants qui faisaient le critique, quarantaine par an, qui faisaient une réflexion critique sur le droit, et également avec les traités critiques, c'était important. On avait l'obligation depuis 1810 pour les avocats d'être licenciés en droit, et en plus, on avait la formation des fonctionnaires. On a créé des écoles pour en former les grands fonctionnaires. Donc, par exemple, on a eu des programmes de droit administratif à l'école des Ponts et Chaussées depuis 1831. Les enseignants de ces programmes étaient des gens comme Ocock et Lafarrière, qui étaient membres du Conseil d'État. Et c'est justement, surtout avec la création de l'école de sciences politiques en 1872, qu'on a cette relation entre les professionnels en droit, les membres du Conseil d'État, et l'enseignement et la doctrine, parce que les cours publiés pour ces programmes, par exemple, plus récemment par Audan, Brébant et Sirn, sont des ouvrages de la doctrine également. Donc, par rapport à l'Angleterre, il y avait vraiment la formation des fonctionnaires et la formation des juristes. La formation des juristes chez nous, c'est difficile. Et en plus, la formation des fonctionnaires n'existait avant 1968. Et l'importance pour la France du commissaire du gouvernement est importante, parce que le commissaire du gouvernement est enseigné à Sciences Po, Ponts et Chaussées, etc., et aussi utilisé ses conclusions pour faire la doctrine sur les matières. Et par exemple, on voit Ocock présente les principes du recours de l'excès du pouvoir dans sa conclusion dans l'affaire Bizet de 1867 et ensuite dans son manuel. Donc, l'enseignement crée la demande pour la simplification, la systématisation du droit, et cette systématisation du droit est l'essentiel pour le système prétorien, avec des interventions assez dispersées de l'administration et du législateur. La demande des étudiants qui veulent devenir des praticiens, soit des avocats, soit des fonctionnaires, et aussi crée la demande pour les ouvrages de la doctrine. C'est l'absence des deux qui a retardé la notion du droit administratif à la reconnaissance du sujet chez nous, mais je dois dire, pour finir, que la situation actuelle est en bon état. Nous avons eu à Cambridge le Public Law Conference, lancé en 2014, qui rassemble plus de 200 participants des pays de common law, y compris les autres magistrats. Et donc, la doctrine est en plein essor en Angleterre, même si c'est bien retardé. Merci.
Merci beaucoup, John Bell, pour cette finale où on voit justement que des développements juridiques finalement très différents. Hein. Je crois que pour les juristes français qui ne connaissent pas ces développements en Angleterre que vous avez évoqués, ça peut évidemment être un peu un choc de voir qu'un pays industrialisé, un pays qui était quand même à l'avance pour la révolution industrielle, pour l'établissement d'un État-nation, ait en fait dû attendre aussi longtemps pour reconnaître, pour que dans la culture juridique des agents de l'État et des juristes qu'on ait voulu reconnaître une catégorie qui, sur le continent et en France certainement, c'était déjà depuis longtemps établie du droit administratif même. Alors, on en voit encore toujours, je crois, des conséquences jusqu'à nos jours, parce qu'évidemment, il y a la notion de droit administratif, mais il est aussi, je crois, vous me corrigerez, quand on cherche des équivalents des matières dans le droit administratif, ce qui est une matière, en fait, en Angleterre, c'est la judicial review. Et la judicial review est très importante. Alors, il y a un concept qui existe aussi en droit français ou en droit continental, mais il n'y a pas c'est pas une matière. C'est pas comme si on demande, par exemple, pour les bureaux d'avocats, on cherche des juristes qui se spécialisent en judicial review. C'est donc là aussi un autre aspect. Alors, un exemple que j'aime bien donner quand moi je donne cours à des étudiants, bon, ce sont des étudiants en droit belge, mais ça sera la même chose pour la France, qui montre un peu aussi comme jusqu'à nos jours la culture est un peu différente. C'est une brochure officielle, je crois, qui est en fait rédigée pour les fonctionnaires, surtout les hauts fonctionnaires en Angleterre, et qui montre un peu bien tout l'esprit. Et je crois, mais là je peux me tromper, je crois que la première édition de cette brochure commence fin des années 60, début des années 70, et des années 60. Et le titre de la brochure est tellement intéressant, c'est « The judge is looking over your shoulder ». Donc le juge regarde autour. Donc une brochure, si vous devenez fonctionnaire ou si vous accédez à une fonction supérieure de la fonction publique, vous recevez cette brochure qui est une sorte de manuel qui vous dit « le juge regarde au-dessus de votre épaule ». Et ça commence par dire, vous êtes un fonctionnaire, vous travaillez pour le ministre, vous regardez ce qu'il y a dans la loi. La loi dit que le ministre a telle et telle compétence, etc., pour, à discrétion, décider de ceci-là. Vous estimez que vous êtes couvert. Et alors, il y a cette phrase, ça vaut vraiment la peine d'aller le lire, vous dites, ce n'est pas vrai. Et cette brochure doit vous aider pour vous prémunir contre des recours devant les juges. Mais donc c'est intéressant parce que ça reste dans la manière de penser, dans le créneau de pensée de la judicial review. Et judicial, on ne peut pas suffisamment le souligner, c'est les juridictions ordinaires. Hein, et que donc, en ce sorte, même tout ce pan de ce qu'on appellerait du droit administratif, mais qui est le judicial review, qui donc, en sens anglais, qui permet donc de contester, d'avoir des recours contre des agents de la couronne ou les agents de la couronne, ça reste vu comme quand même dans une très ancienne tradition de la common law comme essentiellement quelque chose qui est une prérogative des juges de la common law qui finalement vont décider là-dessus. Donc ce n'est pas parce qu'il y a un droit administratif même de nos jours que ces anciennes distinctions et que cette très vieille tradition ont été complètement perdues.